Et bonjour, vous êtes bien sur le 91 de FM Plus à Montpellier. C'est Robert qui va vous parler dans le cadre de son émission Chacona. Alors aujourd'hui, une émission en deux parties. D'abord, nous rendrons un petit hommage à un chef, un baroqueux. En ce moment, on parle beaucoup de baroqueux, mais je vous promets qu'on changera dans quelques temps. Donc, nous avons parlé d'un chef baroqueux, Christopher Wood, qui vient de nous quitter, enfin, il y a quelques semaines. Et ensuite, eh bien, nous aurons un invité. Il s'agira de Monsieur Alarcon, que nous avons pu croiser donc à Montpellier, ou plutôt à Saint-Martin-de-Londres, ce week-end. Et nous en parlerons, de ce musiques anciennes en Pic Saint-Loup. Alors tout d'abord, Christopher Wood, c'est un monsieur chef d'orchestre, claveciniste, qui était né en 1941 à Nottingham. Il a, après avoir étudié à Cambridge, perfectionné le clavecin auprès de Raphaël Puyana et de Susanna Rosikova et de Gustave Léonard, eh bien, il est d'abord devenu le claveciniste de l'Academy of St. Martin in the Field, Neuville-Marinière. Et ensuite, en 67, il a fondé un premier ensemble absolument extraordinaire. Il faudra qu'un jour je le fasse écouter. C'est le Hurley Music Consort avec David Munro, un extraordinaire musicien qui, malheureusement, s'est suicidé. Et ensuite, eh bien, à partir de 1973, il a fondé son orchestre, l'Academy of Fashion Music, qu'il a dirigé donc tout seul jusqu'en 2006. Et donc, dans ce cadre de cet orchestre, il a dirigé les symphonies de Mozart, l'intégrale symphonie de Mozart, presque les symphonies de Haydn. Et il a enregistré tout un tas de belles choses dont on reparlera. Là, on va écouter tout simplement eh bien, l'un des tubes de M. Christopher Wood avec son ensemble, l'Academy of Fashion Music. Il s'agit d'un enregistrement qu'il a réalisé en 1979 pour Decca. Il s'agit tout simplement du Messie de M. Handel. Et donc nous allons écouter le chœur introductif et le premier air. Et c'est donc cet extraordinaire enregistrement qu'il a réalisé donc en 1979.
Thank you. voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Voilà, c'était les deux premiers numéros de ce magnifique Handel de Messi, enregistré donc en 1979. Et vous allez écouter l'angélisme de M. Paul Elliott. Il faut savoir qu'il y a à côté comme chanteur Caroline Watkinson et Emma Kirby, qui elle aussi est décédée il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Donc ceci pour parler de M. Christopher Rockwood, qui nous a laissé tomber le 24 septembre dernier. Alors ce monsieur, outre le fait qu'il a dirigé beaucoup de musique baroque, il a fait aussi les symphonies de Beethoven, il a été directeur artistique en 86 de la Handel & Haydn Society à Boston, et puis ensuite, eh bien, il s'est mis à diriger tout un tas d'orchestres que je dirais non baroques, hein. Il en a dirigé pas mal, et il a fait également beaucoup de l'opéra de Mozart, en particulier à Paris, à l'Opéra Comique en 87. Il a enchaîné, Idoménée, la Clémence de Titus, et il a fait ça pendant toute une série. C'était absolument grandiose. Alors, il a joué aussi donc de la musique du XXe siècle, du Martinou, du Holst, du Stravinsky. Alors, il y a au moins deux remarques qu'on peut faire sur Monsieur Christopher Hogwood. D'abord, en France, il était très moyennement apprécié, puisqu'on le trouvait un peu mollasson. Voilà. Et ça, c'est la première chose. On disait qu'il livrait de la musique en kit. Par contre, outre-Atlantique, il y a un musicologue, Richard Taruskin, qui lui, alors, le trouvait absolument, absolument impossible. Donc, deux grosses critiques, impossible, parce que il faisait de la musique littérale, plus moderne que baroque, enfin, etc. Bon, voilà. Donc, toutes les personnes qui essaient de faire des choses originales, ma foi, se font un peu taxer. Là, nous allons écouter le deuxième grand tube de Monsieur Christopher Hogwood à la tête de son ensemble. Il s'agit tout simplement, eh bien, du Vivaldi. Je ne vous en dis pas plus, vous essaierez de reconnaître. Vous allez voir, c'est certainement, alors ça fait partie de ce qu'on appelle toujours des formations et des façons de diriger historically informed, c'est-à-dire, bon, vous vous êtes mis au courant de tout ce qui se faisait à l'époque. Donc nous allons écouter du Vivaldi. Je pense que normalement, vous devrez tout à fait reconnaître ce que c'est que cette œuvre. Alors j'espère que vous avez reconnu, il s'agissait du début du Stabat Mater de Vivaldi avec le contre-ténor James Bowman. Et vous avez donc, eh bien, Monsieur Christopher Hogood qui dirigeait justement son ensemble, l'Academic of Fashion Music. Il faut savoir que ce disque a été une des plus grosses ventes de la musique classique. Il paraît que ça a été largement supérieur à tout ce que faisait Pavarotti. Il n'était peut-être pas en 76 aussi vendeur qu'après. Et il vendait même plus que Karajan, ce qui paraît. Donc c'était pratiquement un succès qui réservé d'ordinaire aux albums de musique pop. Voilà. Donc ceci était pour signaler la disparition et de rendre un petit hommage à M. Christopher Hogood. D'ici quelques semaines, peut-être pas la semaine prochaine ou la semaine d'après, nous parlerons d'un autre baroqueux qui a disparu. Et là, c'est un grand monsieur. Et nous parlerons de M. Franz Bruggen. Voilà. Alors, deuxième partie de cette émission, nous allons parler d'un festival qui a eu lieu dans les environs de Montpellier. Il s'agit de musique ancienne en Pic-Saint-Loup. Donc ce festival, en fait, est fait par M. Philippe Leclan, qui lui aussi dirige le Festival de Maguelone. Et donc pour ses trois concerts, le 24, le 25 et le 26, eh bien, il avait amené des musiciens de qualité, même de très grande qualité. Vendredi 24, il y avait Paolo Pandolfo, qui a joué de la viole de gamme, des œuvres de Machi et de Jean-Sébastien Bach, et ça se passait à l'église de Saint-Jean de Cucul. Ensuite, le samedi 25, c'était Rameau and Company, donc des œuvres de Rameau, de Duffly et de Forqueray, interprétées par Blandine Rano, qui jouait justement le fameux au château d'Assas, le fameux clavecin de Scott Ross, le magnifique clavecin, vraiment absolument magique. Et dimanche 26 à 17h à Saint-Martin-de-Donne, dans l'église romane Saint-Martin, justement, eh bien nous avons eu la Capella Mediterranea, et c'est pour cette raison que nous allons en parler un peu plus longtemps, puisque j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec M. Leonardo Garcia Alarcón. Alors vous savez que ce monsieur qui dirige la Capella Mediterranea, il y a son épouse qui chante et qui s'appelle Mariana Flores. Et on a eu de multiples fois l'occasion de le croiser et à Montpellier, et à Maguelone, et surtout à Ambronay. Alors avant d'écouter monsieur Alarcón, qui a bien voulu discuter avec moi, on était au soleil, on était bien, on était devant l'église, donc j'entends un peu de bruit à côté, nous allons tout simplement écouter un petit extrait de Blandine Rano, qui joue sur le clavecin, un clavecin. Nous allons l'écouter avec une œuvre qu'elle a justement donnée samedi 25. Il s'agit de La Poule de monsieur Rameau. Donc nous allons écouter un extrait. C'est pas un extrait, c'est un entier. Nous allons écouter un entier, La Poule, œuvre donc de monsieur Jean-Philippe Rameau. Thank you. La Capella Mediterranea, Madame Flores, Monsieur Léo, dans Rêve d'une nuit vénitienne. Alors, pourquoi ce titre ?
Alors, je pense que c'est vraiment un rêve vénitien autour de l'histoire de la monodie accompagnée. Qu'est-ce que ça veut dire, la monodie accompagnée ? Pour les non-connaisseurs, c'est simplement au moment où, à la fin du XVIe siècle, quelqu'un a pris une guitare, a joué des accords, et pas simplement jouer des lignes mélodiques, sinon accompagné par des accords. Pour nous, aujourd'hui, c'est très, très simple, très évident. N'importe quel groupe pop s'accompagne avec un piano ou avec des guitares électriques qui font des accords. Mais à cette époque, c'était une grande révolution. Et c'était surtout un Romain, Giulio Caccini, qui a commencé avec cela. Mais après, c'est surtout les Vénitiens et plus tard les Napolitains qui ont pris cet art et qui l'ont amené à l'invention la plus importante que Monteverdi a donné, mais plus tard, c'est Venise qui va donner le titre de noblesse, ça veut dire c'est l'opéra. Mmh. Et en 1637, à Venise, c'est le premier opéra public qu'on connaît, et depuis ce moment-là, des compositeurs comme Francesco Cavalli, les élèves de Claudio Monteverdi, vont développer toute une école autour de cela. Et c'est pour cela qu'on a voulu faire un voyage et des rêves autour de la création à Venise. Montrer aussi que c'est à Rome que tout cela commence, mais que quand même c'est Venise qui le développe, avec des compositeurs comme Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli et aussi une élève de Francesco Cavalli, Barbara Strozzi. Et je pense que de la main de ces trois compositeurs, on peut aller dans trois générations différentes et avec des styles très différents, mais qui gardent, comme toujours, et un lien très fort entre eux, et il y avait beaucoup d'admiration entre eux aussi. Alors c'est normal qu'ils développent chaque fois plus la poésie d'une manière beaucoup plus exacerbée, surtout Barbara Strozzi. Et c'est une des premières femmes compositrices de l'histoire, une des premières femmes libérales de l'histoire. Elle avait une liberté très grande à Venise aussi, qui s'est donnée aux femmes pour pouvoir composer, pour pouvoir créer. Alors c'est une ambiance unique dans la République de Venise, d'une grande liberté, tout au contraire de ce qui est arrivé à Rome. Alors je pense que c'est pour nous, faire cette musique, ça nous montre à quel point des compositeurs qui à la fois étaient des maîtres de chapelle, il ne faut jamais oublier, c'est des maîtres de chapelle à San Marco, comme Cavalli et Monteverdi, pouvaient aussi parler d'amour, des fois même aller plus loin, comme dans l'Incoronation d'Hippopéa, où on parle vraiment d'érotisme, de trahison et des questions tout à fait amorales. Alors à cette époque, on pouvait mélanger les genres et on pouvait parler en liberté. Et c'est cela qu'on aime de Venise, ce mélange des genres et aussi la grande liberté des pensées qui permettait aux artistes de s'exprimer sans aucun souci et sans avoir une interdiction.
Alors cette seconde pratique, elle n'est pas arrivée ni par hasard, ni facilement. Elle s'est imposée à l'aide de bagarres. Quand on voit ce qu'on a dit sur Monteverdi à propos de son livre, d'un de ses livres de madrigaux, c'était violent quand même.
Oui, je pense que c'est normal que toujours qu'il y a une nouveauté, arrivent les critiques. Mais je pense que c'est absolument normal, et Monteverdi le savait, ça lui a fait mal au début, mais après non, il s'est expliqué. Et surtout, chaque fois qu'il y a une vraie nouveauté historique, on sait qu'il n'y a pas de retour. Même celui qui est en train de critiquer, et quand les critiques sont encore plus fortes, c'est quand il n'y a pas de retour. C'est que c'est quelque chose de tellement évident qu'on ne peut plus y revenir. Alors ça génère encore plus de violence dans le champ. Et c'est normal, Monteverdi a provoqué cela. Et je pense que jamais il a douté s'il fallait le faire, parce que lui, il voyait plus loin. Alors, c'est un maniériste, ce n'est pas un homme de la Renaissance. C'est un humaniste, oui, mais ce n'est pas un homme de la Renaissance déjà, quand il est à Venise, et ce n'est pas un baroque non plus. C'est un maniériste. Et en musique, on parle très peu des maniéristes, du maniérisme, c'est-à-dire qu'il développe la forme, il ne change pas la règle plus basique, mais il transforme et il déforme la forme. Alors c'est ça, Claudio Monteverdi.
Alors ce qui est étrange aussi, c'est que aussi bien donc ce que vous disiez, Monteverdi que Cavalli, tous les deux étaient quand même à une position très importante à San Marco. Et puis à côté, il y avait les opéras, les salles publiques, enfin, où on payait pour rentrer. Et donc ils se sont retrouvés tous à composer pour ces salles-là, et certains, ils ont fait par moment beaucoup d'argent.
Oui, c'est vrai, mais aussi, ils étaient ruinés, comme oui, Francesco Cavalli. C'est-à-dire, c'était quand on faisait un opéra de cour, même Monteverdi, il ne gagnait pas beaucoup d'argent à Mantova pour l'Orfeo, et il demandait chaque fois qu'on lui paye, qu'on lui augmente les salaires. Et Francesco Cavalli, bon, il jouait au loto, que c'est une invention aussi vénitienne,
oui,
c'est-à-dire
oui.
C'est au casino vénitien, et pour gagner un peu plus d'argent, mais en général, il investissait tout cela aussi, et même son salaire à San Marco, dans l'opéra. Mm-hmm. Mais il ne gagnait pas beaucoup. Et c'était une grande passion. Il y avait aussi, en plus de l'opéra, les académies. Alors, il y avait les académies où il y avait des nobles ou des personnages libres aussi vénitiens qui provoquaient. Provoquer la pensée, l'intellect, avec des réflexions très nouvelles. Et je pense que c'est cela que Francesco Cavalli surtout a développé, en plus de l'opéra, Monteverdi aussi, avec le père de Barbara Strozzi, Giulio Strozzi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans le monde un lieu de ce type. Peut-être. On devait rêver à quelque chose pareil, à une sorte d'oasis d'académie, d'arcadie intellectuelle comme il y avait à Venise. C'est unique dans l'histoire, c'est pour ça qu'on les admire. Et même aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on va à Venise, on se sent ailleurs et on comprend peut-être pourquoi, à l'époque même, il y avait une différence tellement grande avec tout l'art de partout en Europe. Alors c'est cette unicité, cette caractéristique de quelque chose unique au monde qu'on ressent peut-être à Venise et pas ailleurs.
Alors le problème aussi qui se pose pour toute cette musique, c'est de trouver là où les partitions, d'abord où elles sont, c'est pas toujours facile, et puis quelle partition prendre, quel instrumentarium mettre derrière, etc.
Oui, généralement on sait très bien avec quels instruments on accompagnait. Les clavecins, évidemment, il est présent dans tous les opéras, il est présent dans les académies, dans les maisons. Des petites orgues aussi, même si on les utilise moins qu'à Rome, des petites orgues en bois qui mm-hmm. accompagnaient.
Des positifs.
Des positifs, oui. Après, de guitares, évidemment, tous les types de luttes, les archiluttes, des luttes plus grandes, des théorbes. Et l'harpe, évidemment, qui accompagne. Alors, c'est à nous de
l'harpe décider. L'harpe qui faut remplacer le clavecin.
Et en fait, le clavecin, il imite d'une certaine façon la harpe.
Bien fait.
C'est pour ça que harpsichord, harpsichord
oui,
en anglais, c'est
absolument.
Une harpe plus grande. Alors, tous les deux, ils sont très complémentaires, en fait. Avant, c'était Orfeo avec sa lyre, et plus tard c'était la lyre était remplacée par la harpe, et plus tard le clavecin a pris tout, plus tard le piano a pris la place d'un clavecin, évidemment. Alors avec ces instruments on accompagne par rapport au texte, on essaye de donner au texte, d'esculpter le texte avec nos sons, parce qu'on improvise la musique, c'est-à-dire qu'on a seulement une ligne de basse et on doit improviser l'accompagnement. Alors impossible de faire comme eux exactement, mais on a beaucoup de traités qui montrent comment faire, mais c'est quelque chose de très très personnel, parce qu'un texte provoque une personne en particulier et une autre ne va pas accompagner de la même façon. Alors jamais on aura un art de l'accompagnement, de la basse continue qui est pareil chez différentes personnes. Alors ça c'est là qui fait de cette musique un art d'improvisation constante provoqué par les compositeurs et les poètes.
Alors l'instrumentarium, bon, là vous allez jouer un clavecin, il y a un théorbe et la voix. Est-ce que par moment on peut par exemple doubler, rajouter deux théorbes, rajouter un violon ou des choses comme ça, ou ça vous semble être tout à fait hors de propos?
Non, on peut rajouter tous les instruments qu'on veut. En réalité, à l'époque, si on avait 10 personnes, ils jouaient chacun un instrument et ils se mettaient à jouer différentes pièces. Ça veut dire que c'est comme si on inviterait aujourd'hui le public et chacun à jouer un instrument et on serait 100 personnes en train d'accompagner la musique. Et c'est possible, ça veut dire que l'art d'accompagner, ça permet justement de s'adapter au lieu aussi. Je pense que dans cette église tellement ancienne, plus d'instruments feraient vraiment peut-être une cacophonie.
Oui,
parce
c'est
que c'est déjà très difficile d'arriver à une grande intimité. Mais quand on va vraiment vers les consonnes et quand on fait un grand écart entre les fortissimos, qui sont aussi possibles, et les pianissimos, on peut dominer cette acoustique. Alors plus d'instruments, je ne pense pas.
Oui, d'accord. Alors là, on voit que vous allez donner deux œuvres, enfin deux extraits d'opéra, donc, enfin, d'opéra de Cavalli. Alors, est-ce que vous commencez un peu à avoir exploité un peu beaucoup de Cavalli? Il y en a 27 d'opéra, je crois, hein, c'est ça?
Oui, il y en a 27 opéras. Il y a beaucoup qui ont été perdus. Mais depuis le premier opéra en 1639, les Nozze di Teti e di Peleo, et la dernière opéra, l'Elio Ravallo, on a une palette de différentes, d'abord livrées, mais des cavaliers qui se transforment aussi depuis cette époque. Et on a voulu enregistrer un disque qui va sortir l'année prochaine, en 2015, sur le label Ricercare, avec deux disques de toute cette histoire, avec Mariana Flores et Anna Reinhold, et qui chantent, et après avec un continuum assez nourri, pour pouvoir montrer au public lesquels sont les opéras de Cavalli, et pouvoir faire un voyage, une évocation de la vie de ces grands compositeurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on demande aujourd'hui, d'avoir de connaître déjà les titres de tous les opéras qu'il a fait, parce que le XXIe siècle, c'est pour moi un siècle Cavalli. Comme le XXe était un siècle Bach et Monteverdi dans la redécouverte, je pense que le XXIe siècle, ce sera un siècle Cavalli et on doit être là.
Et alors pour ces opéras de Cavalli, on a absolument tout ou fait comme fait Jacob, c'est, je sais que bon, tout le monde n'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'on invente, on réécrit, on bat la mesure sur tout. Comment faites-vous?
Je pense que si, ça dépend du lieu. Si vous êtes dans un petit théâtre à l'italienne pour 400 personnes, vous pouvez faire cela avec 10 musiciens, comme à Venise, même moins, avec seulement une basse continue et deux violons. Mais si vous êtes à l'Opéra Garnier, il faudra penser à 40-50 musiciens. Ça veut dire qu'il faut, à mon avis, s'adapter au lieu. Et ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit. Quand Cavalli, par exemple, a composé pour les mariages de Louis XIV, il a utilisé entre 40 et 45 musiciens à Paris. Pour,
mais ça, on lui a un peu imposé, peut-être.
Hein. L'Ercole Amante.
On lui a un peu, non, peut-être un peu imposé.
Mais je pense que lui aussi, il voulait bien, parce que quand il est revenu à Venise, il demandait plus. Alors, je pense que pour n'importe quel musicien, avoir une richesse de couleurs, c'est quelque chose d'important. Mais à Venise, il ne pouvait pas se le permettre, en fait. Alors, même si on sait qu'avec un petit effectif, tout est possible, et on n'a pas besoin de plus, pour des grandes salles, on doit amplifier, parce que un théâtre plus grand, c'est aussi une exagération du geste.
Bien sûr.
Alors on doit exagérer aussi les volumes et les dynamiques, les couleurs.
Oui, ouais. Justement, le problème des couleurs, il se pose très vite là. Si oui. Vous avez 8 instrumentistes, vous aurez moins de couleurs que si vous en avez 35.
Mais vous savez qu'avec la basse continue, la quantité de couleurs que vous pouvez avoir, ouais, c'est une nuit. Alors c'est pour ça que je me fais des soucis, parce que c'est un microcosme. Des fois, avec un grand orchestre, on a moins de couleurs qu'avec quatre musiciens. Alors c'est impressionnant, hein, parce que c'est un microcosme qui demande une autre attention, une autre oreille. Mais avec les grands orchestres, c'est surtout beaucoup plus de contraste et amplifié.
Oui, c'est
amplifié, c'est là. Mais des fois, les couleurs qu'on peut avoir avec un luth et une harpe, c'est une nuit. Et je pense que Capella Méditerranée, avec mon ensemble, on essaye de montrer cela, à quel point, avec 5-6 musiciens, c'est possible aussi de reconstruire des couleurs qui ont disparu dès qu'on a accompagné seulement avec un piano, en fait.
Mais c'est d'abord le prime de la parole.
Oui, mais en fait, les instruments, c'est tout simplement la parole. Ce n'est pas quelque chose de à part la parole. C'est-à-dire la parole dit quelque chose, et l'instrument, il fait l'amplifier et montrer qu'est-ce que c'est. Mais jamais l'instrument comme un outil de couleur derrière la parole. Et parce qu'en Italie, c'est exactement la même chose. Musique et texte, peut-être dans toute l'Europe, toujours a été deux choses divisé, mais en Italie, c'est exactement la même chose. Les textes, c'est la musique.
Alors, se pose le problème aussi du cornetto. Alors, on a dit que le cornetto, il n'y en avait pas beaucoup dans les opéras de Cavalli, parce qu'ils étaient tous morts à la suite de Grande Peste. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, je pense que ça, c'est possible, mais ça fait partie des questions qu'on ne se pose même pas, c'est-à-dire ce qui est arrivé d'historique. À l'époque, comme vous me dites, n'a rien à voir avec le style voulu peut-être par les musiciens. Et nous, on n'est pas là non plus pour faire une reconstruction historique exacte,
oui, et
comme à l'époque,
dire,
parce que ça serait impossible. Et je pense qu'on se dédierait à une autre chose si on devrait faire ça. Mais on est surtout pour aller, je pense, un peu plus loin, c'est-à-dire pour montrer à quel point les musiciens de cette époque sont capables de transmettre à travers les siècles un message qui est universel et qui nous parle aujourd'hui. Mmh. Que chaque fois qu'on l'aborde, on n'est pas en train de travailler avec un élément ancien et lointain, sinon avec quelque chose de très très proche. Et c'est là le miracle de la poésie et de la musique.
Bien. Alors pour conclure, quel diapason ? Parce que c'est un problème ça aussi.
Alors oui, on utilise un diapason qui est à 440, et entre 440 et 444, assez haut, mais c'est intermédiaire.
Oui.
Parce qu'à l'époque, à Venise, on utilisait beaucoup 400, mais on sait très bien qu'à San Marco, c'était 500. C'était très, très haut.
Oui, ce qui veut dire que les basses, ça posait problème. Hein.
Et oui. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes, mais surtout pour les instruments qui accompagnaient. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être très peu de vent aussi à l'opéra, c'est parce que les diapasons des instruments à vent construits à Venise étaient très hauts. Et on pouvait simplement, les instruments à cordes, on peut les ajuster, mais pas les instruments à vent. Alors, pour les diapasons à Rome, on sait aussi qu'autour des 410 aussi. Mais on a voulu garder quand même une certaine brillance pour la voix de Mariana Flores. Il faut savoir aussi qu'on doit s'adapter. Si, au diapason, si on a une mezzo-soprano ou si on a une soprano, et à l'époque, il ne se faisait pas de soucis pour ce type de choses. Ils étaient beaucoup plus libres de ce qu'on pense. Et on voit que dans une même ville, il peut y avoir des consortes d'instruments à vent dans n'importe quel diapason.
D'accord.
Et
des
disparates, c'est pas possible.
Alors, comment faites-vous ? J'ai dit dernière question, mais il y a toujours une autre. Vous, comment faites-vous pour les castrats ? Alors, les castrats alto, bon, on peut admettre que ça va, mais les castrats soprano, ça pose un problème quand même.
Oui, aujourd'hui, on n'a plus, mais on commence à avoir...
On a envie de dire dommage. Hein.
Alors, je pense que c'était en France. Et c'était Napoléon qui les a interdits en Italie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des sopranistes qu'on n'avait pas beaucoup il y a 20-30 ans. On a des sopranistes dans le style de Philippe Charouski, ici en France, et comme Valer Varnasavadus, qui a créé notre opéra Elena aussi au Festival d'Aix-en-Provence, que c'est des voix qui peuvent aller même plus haut qu'une soprano sans aucun souci.
Alors, plus haut qu'une soprano
oui. Et par exemple, dans l'écriture même de Monteverdi, Néron, les duos, il est plus haut que Popea, et on le fait aujourd'hui, sans souci. Alors, je pense qu'on est dans un moment où on peut l'appliquer Sans problème. Et on a encore une fois les sopranistes.
Mais comment sont ces personnes avec des voix si hautes? Je veux dire, ils ont travaillé particulièrement pour pouvoir monter dans l'aigu, ou c'est une malformation qui fait qu'ils y arrivent plus facilement? C'est quoi?
Alors non, aujourd'hui, je pense que c'est des gens qui, il y a 50 ans, ne savaient pas qu'ils pouvaient chanter dans ces registres.
D'accord.
parce que c'est un
falsetto de falsetto.
Oui, absolument. et en réalité, c'est des barytons, la plupart du temps.
Oui, c'est ça.
Mais pour les barytons aigus, ils peuvent arriver à être encore plus aigu dans sa voix de falsetto. Et peut-être tout simplement, on ne savait pas que. C'est-à-dire, ces gens, il y a 50 ans, ne savaient pas qu'ils pouvaient chanter dans ce registre. Mais aujourd'hui, il y a une demande.
Mais comment on a retrouvé cette technique vocale, hein?
Alors, je pense que c'est Philippe Chalouski qui l'a fait ici.
Oui, oui.
En France.
Oui, mais il y avait bien des manuels. Il n'y avait pas des techniques de chant, des livres, des choses comme ça.
Ah oui, bien sûr.
Il fallait le comprendre.
Mais c'était des castrats.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une technique.
Oui.
Simplement, on castrait et on avait la voix.
Bon, ils avaient le coffre aussi.
Ils savaient ça, mais à l'époque, il y avait les contre-ténors, qu'on appelle dans le style d'Alfred Deller.
Qui était bariton aussi, il ne faut pas l'oublier.
Aussi bariton.
Oui.
Mais ces contre-ténors n'ont rien à voir avec les castrats. Et Händel, des fois, les utilise, mais en réalité, c'était des voix très petites. C'était des voix d'église, d'une certaine façon, qui ne passaient pas bien au théâtre, alors on ne les aimait pas beaucoup.
Absolument.
Et nous, ce qu'on a fait, c'est avec les contre-ténors, on les a utilisés et on va vers des voix chaque fois plus grandes. Par exemple, maintenant, Franco Vaggiolis, qui chante dans un registre de mezzo aussi, mais qui peut monter et qui a un très grand volume.
Oui, c'est ça, absolument.
Alors, c'est là et nouveau.
C'est même étonnant. Même,
étonnant.
Oui, parce qu'on a l'impression que le soprano, elle n'existe pas à côté de
lui. Oui, c'est ça.
C'est étrange. Oui.
Alors, ça, c'est nouveau, encore une fois, et je pense qu'il y a beaucoup de surprises dans les années à venir.
D'accord.
Dans ces registres.
Pour conclure, l'année prochaine, on retrouve où? Ou dans quelques mois
Alors, dans quelques mois...
Ou semaines, je ne sais pas.
Alors, je pense que Capella Méditerranée, mon ensemble, maintenant, il sera à Nantes en chef pour le Cavalli, encore une fois,
ouais.
Elena.
Oui.
Maintenant, je vais diriger à Rennes aussi, au mois de novembre, Elena de Cavalli. Et maintenant, je vais diriger Freiburger Baroque Orchestre avec Rias Kammerchor. On sera à l'Opéra de Dijon. Aussi à Freiburg et à la Philharmonie de Berlin. Ce sera mon premier concert en Philharmonie de Berlin le 8 novembre.
D'accord.
Alors ça sera le Requiem de Cherubini pour Louis XVI et Hans Loeb, un musicien extraordinaire,
extraordinaire,
la première symphonie qu'on ne connaît pas beaucoup.
C'est extraordinaire.
C'est vraiment magnifique. Et la Fantaisie chorale de Beethoven.
Ah d'accord, directement, vous attaquez Beethoven.
Oui.
Mozart, Beethoven et après.
Après le 19e.
Oui, 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 vous sentez que faire comme Herweg.
Mais je pense que c'est cette musique qui m'a toujours attiré. C'est pas une nouveauté en tout cas pour moi, mais pour l'extérieur, peut-être oui.
D'accord. Bien, Léo, merci beaucoup et à très bientôt.
Come your love, che l'amore
Et voilà, vous étiez bien donc sur FM+, sur le 91.00 de Montpellier. C'était l'émission Chacona, représentée par Robert. Vous avez donc écouté l'interview de M. Alarcón, qui a dirigé ici à Saint-Martin-de-Londres le week-end dernier et qui a bien voulu accepter une petite interview avec nous. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.